Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, nous sommes le mardi 15 novembre, si je ne me trompe pas. Et c'est donc la première des deux émissions mensuelles d'Amnesty pour le mois de novembre, puisque je rappelle que nous sommes passés maintenant à deux émissions par mois et que la prochaine sera à la fin du mois. On vous redira la date tout à l'heure.
Eh bien, 15 plus 15.
Voilà. Mais on vous redira la date tout à l'heure. On va faire durer le suspense.
Ouais.
Donc, ce soir, avec moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Patrice.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Il y a Ronan, fidèle à ses boutons et à sa technique.
Bonsoir.
Et il y a...
Didier.
Merci. Voilà. Donc, une heure pour... vous en avez un peu l'habitude, mais pour parler des droits humains, l'actualité des droits humains, et pour dire ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qui est intéressant comme perspective et ce qui l'est moins. Et en ce moment, on a des perspectives qui sont un petit peu dures, effectivement, on va y revenir. Je rappelle quand même en préambule, comme je le dis à chaque fois, que si vous n'avez pas pu nous écouter en direct donc le mardi, vous avez tous les podcasts en ligne sur le site de Principe Actif, principeactif.net. À la rubrique Amnesty, vous avez tous les podcasts depuis l'année 2010. Donc vous avez de quoi vous occuper si vous ne savez pas quoi faire le dimanche.
Oh, vous pouvez juste faire celui juste d'avant ou le mois d'avant quand
Oui.
Hein, parce que depuis 2010...
Je sais. Non mais c'est intéressant de réécouter des fois des choses un peu anciennes aussi. Donc voilà, l'actualité des droits humains. Bon, ben, vous n'êtes pas sans savoir que un personnage qui n'est pas vraiment, dirons-nous, un modèle en termes de respect des droits humains a été élu à la présidence de la République des États-Unis. Ben, ça, on va vous en reparler tout à l'heure. Par contre, bon, c'est vrai que c'est dans un climat général qui est un peu anxiogène. C'est un mot à la mode, mais c'est un mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Un peu anxiogène par rapport au respect des droits humains. On constate que quand même, il y a une habitude qui se prend au niveau des responsables politiques et dans l'opinion publique et dans différents et même dans certains médias qui ont l'air de moins se préoccuper de ça. Une habitude qui se prend à dire que les droits humains, c'est un peu un luxe hein, et que, bon, dans le climat actuel de terrorisme, on a beaucoup parlé de l'anniversaire des attentats de Paris, là, effectivement, ces jours-ci, ce qui est tout à fait normal. Mais dans ce climat actuel de terrorisme, de guerre à droite et à gauche, d'exactions commises, bon, les droits humains, c'est bien si on a le temps, c'est bien si on peut s'en occuper, mais ce n'est pas le premier de nos soucis. Chose qui, pour nous, est absolument un discours complètement faux. Parce que c'est effectivement quand on se préoccupe, et quand on se préoccupe encore plus des droits humains, et de la façon, comme je dis toujours, de vivre ensemble intelligemment, parce que les droits humains, c'est ça, qu'on permet effectivement de sortir des crises. C'est un bon moyen pour lutter, pour sortir des crises, et des crises telles que nous les connaissons à l'heure actuelle, encore une fois. On répétera jamais qu'il faut s'imprégner de ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un texte très facile à lire, mais quand vous avez lu les 20 et quelques rubriques qui y figurent, on a compris quand même beaucoup de choses. Il y a des textes complémentaires qui sont peut-être un petit peu plus ardus. Et quand on parle du droit des réfugiés, c'est intéressant aussi de s'intéresser au droit des réfugiés et de la Convention internationale 51, de lire ces choses-là, de prendre un peu de temps pour le faire. Tout ça, c'est disponible sur Internet, hein, c'est très facile à trouver. Et de lire un peu toutes ces choses-là, et ça nous remet un petit peu, je dirais, les pendules à l'heure. Parce qu'effectivement, le discours disant les droits humains, c'est bien, mais c'est un luxe. Non, les droits humains, c'est bien, ça, on en est convaincu, mais c'est tout sauf un luxe. C'est même devenu quelque chose de fondamentalement indispensable par les temps qui courent. Et Edith, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, m'a donné une information que moi, je ne connaissais pas. C'est qu'il a été annoncé aujourd'hui en Europe, chez nous, enfin dans la communauté européenne, qui repose quand même normalement sur la Déclaration universelle des droits humains et sur l'abolition de la peine de mort et des choses qui nous semblent tout à fait évidentes, que la communauté, au sein de la communauté européenne, deux pays comme la Hongrie et la Pologne avaient décidé, tu m'arrêteras si je me trompe.
Alors la Hongrie, c'est déjà quelque chose qui est entériné au niveau du gouvernement avec une limitation du droit d'expression dans la presse.
Oui.
Hein, il y a eu vraiment des lois qui font que le discours, c'est le discours... on va dire, des dirigeants Et pour avoir une pluralité au niveau de la presse, c'est déjà, il y a eu déjà des lois qui ont été votées. Et quand ces lois ont été votées, les journalistes européens se sont très inquiétés en sachant que c'était, comme tu dis, le début de la fin de quelque chose et que c'est très dangereux quand on se permet que ça puisse exister. Et en demandant à l'Europe un petit peu, en disant mais il faut qu'il y ait des lois.
Il faut réagir.
Et la réaction là, voilà, de l'Europe, c'est ah ben oui, on peut faire ça, mais ça va mettre du temps. Et là, ce que j'entendais ce matin, c'est que ben, la Pologne, prenant un mauvais exemple sur la Hongrie, avait tout à fait envie de faire la même chose et donc de limiter la liberté de la presse et faire que les Polonais, comme les Hongrois, n'aient qu'un discours, on va dire, celui du gouvernant et qui n'est pas empreint de pluralité, dirons-nous.
Tout à fait. Et la liberté de la presse, ça figure parmi ces articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une évidence. La liberté de la presse et la liberté d'opinion, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. Et on se rend compte de leur importance le jour où on les perd. Ça, c'est toujours le même discours. Voilà. Et donc, oui, bon, en Hongrie, il y a M. Orban, je crois qu'il s'appelle.
Je pense que c'est lui.
Le président qui est... Bah, ce sont des gens qui sont... Et en Pologne, j'ai oublié leur nom, mais ce sont des gens qui sont...
Je ne pourrais pas dire. Non. Si quelqu'un connaît, vite téléphoner. Mais
c'est en polonais. Le polonais qui est une langue un peu difficile à articuler. Non, Renan, je ne viens pas te demander de parler en polonais. Renan me regarde parce qu'il est spécialiste des noms imprononçables. Mais non, mais blague à part, la situation effectivement se dégrade et ce sont de M. Orban, donc président actuel de la Hongrie, et les gens qui sont à la responsable politique de la Pologne, ce sont des gens qui sont dans les mêmes eaux au niveau des opinions politiques que celui, on vous en parlait tout à l'heure, que celui qui est arrivé à la Maison-Blanche. Donald Trump, effectivement, ils font partie du même bateau. Ces gens, effectivement, qui considèrent que les droits humains, c'est un luxe dont on peut, en tout ou partie, se passer. Et donc, ça nous fait la transition par rapport à ce qu'on voulait vous dire. Il y a suite à l'élection de Donald Trump, il y a un communiqué qui est paru d'Amnesty. Amnesty a pris position en disant que, de toute façon, il était hors de question qu'un responsable politique qui bafoue les droits humains ne trouve pas sur son chemin Amnesty International, effectivement, pour protester. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est valable aussi pour le président américain. Et Amnesty a publié un article qui est signé de Jean Stern. Jean Stern, c'est le rédacteur en chef de La Chronique. La Chronique, j'en parle à toutes les émissions, c'est le mensuel.
C'est le journal d'Amnesty.
Voilà. Si vous voulez vous abonner...
J'ai le nom de ton président.
Ah, polonais ? Très bien, Rodan. Vas-y.
Ah, attention.
Andrzej Duda.
Ben voilà.
C'est pas mal.
Et donc, la chronique, si vous voulez vous abonner, c'est pas difficile. Vous avez sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr, et vous avez une rubrique abonnement à la chronique. C'est une excellente source d'information.
Et même si vous venez nous voir, eh ben, on en donne des chroniques anciennes.
Exactement. Donc voilà ce texte qui est signé du rédacteur en chef de la chronique et qui dit « Donald Trump est donc devenu, à 70 ans, ce 8 novembre 2016, le 45e président des États-Unis et l'homme le plus puissant du monde. Il est bien trop tôt pour analyser en profondeur les conséquences du triomphe du candidat « anti-système », entre guillemets, comme titre le New York Times. Mais il est tout de même déjà temps de s'inquiéter des conséquences de ses outrances, notamment à propos des droits humains. Il ne faut pas hausser les épaules et y voir des bourdes ou des gaffes, mais bien l'expression d'une tendance mondiale de dénonciation des défenseurs des droits humains. On s'en aperçoit avec de nombreux chefs d'État, à commencer par Vladimir Poutine. Pour le secrétaire général d'Amnesty International, Salil Chetty, le président élu a suscité tout au long de la campagne de sérieuses inquiétudes sur l'engagement de son pays en faveur des droits humains. Disons-le dès aujourd'hui tout net à M. Trump, nous ne lâcherons pas nos efforts contre l'arbitraire et l'injustice, la démagogie et la forfaiture. Nous refusons les politiques haineuses, xénophobes et sexistes.
Et sur ce plan, Amnesty International risque d'avoir du pain sur la planche. Après ses propos nauséabonds sur les migrants, qualifiés de criminels, de violeurs, sur les musulmans, qui représentent un problème, toujours entre guillemets, son projet de construction d'un mur de séparation avec le Mexique sur la frontière sud du pays est une grave menace pour la paix dans la région. Sur le contrôle des armes, sujet qui divise la société américaine, au regard des innombrables tueries de masse dans les établissements scolaires, les centres commerciaux et les cinémas, Trump est un fervent défenseur du Second Amendement qui autorise le port d'armes. Il réclame même la suppression de plusieurs zones libres d'armes, essentiellement les lieux publics, des universités, etc. Trump s'oppose également à la fermeture de Guantanamo et se prononce même en faveur de la pratique du waterboarding, torture qui consiste à plonger la tête d'un suspect dans l'eau afin de provoquer l'asphyxie. De quoi inquiéter Margaret Wang, directrice d'Amnesty États-Unis. Mercredi matin, elle estimait que, entre guillemets, la rhétorique toxique du président élu et de quelques autres ne peut tenir lieu de politique gouvernementale.
Amnesty attend donc le président élu de pied ferme et entend poursuivre le combat en faveur de l'abolition de la peine de mort, dont Trump est un farouche partisan. Sur ce plan, une partie de l'opinion semble lui donner raison. En Californie, deux référendums étaient soumis ce même 8 novembre aux électeurs. L'un visant à abolir la peine de mort a été perdu, l'autre visant à accélérer les exécutions a été adopté. En Oklahoma, c'est un référendum en faveur de l'inscription de la peine de mort dans la Constitution de l'État qui a été adopté. Et enfin, au Nebraska, la décision d'abroger la peine de mort prise l'année dernière par la Chambre locale a été rejetée. Citoyens et militants doivent donc se retrousser les manches là-bas et ici. Puisque le paragraphe parlait de la peine de mort, on va changer de continent, on va aller jusqu'en Asie, au Japon, pour situer les choses. Au Japon, les exécutions sont entourées de secrets, les prisonniers n'étant le plus souvent informés de cette échéance que quelques heures auparavant. Kenichi Tajiri, 45 ans, a été exécuté au centre de détention de Fukuoka vendredi 11 novembre à l'aube. Il s'agit de la troisième depuis le début de l'année 2016. La peine de mort ne rend jamais justice. C'est un acte cruel et inhumain. Le gouvernement japonais ne peut masquer le fait qu'il se place du mauvais côté de l'histoire, alors que la majorité des États du globe se détournent de ce châtiment. 17, c'est le nombre total d'exécutions sous le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe. Elle intervient un mois après que la Fédération des barreaux japonais a formellement adopté une ligne politique réclamant l'abolition de la peine de mort. La fédération a notamment mis en avant le risque d'erreur dans les condamnations et l'absence de preuves quant à l'effet dissuasif de la peine de mort sur la criminalité. Au lieu de signer d'autres mandats d'exécution, le ministre de la Justice, Katsutoshi Kaneda, devrait prêter l'oreille aux nombreuses voix s'opposant à la peine capitale, comme les Nations Unies et ses avocats respectés, et œuvrer à mettre fin à son application au Japon. Il y a une pétition sur le site d'Amnesty, je pense.
Tout à fait, voilà, oui, pétition en ligne.
Agissez contre la peine de mort au Japon, non à l'exécution de 13 condamnés. Les exécutions dans le secret.
Voilà, je pense que tu peux expliquer un peu comment ça se passe au Japon.
Alors,
parce que c'est...
Voilà. Alors, au Japon, les exécutions sont entourées de secrets, les prisonniers n'étant le plus souvent informés de cette échéance que quelques heures auparavant. Il arrive également qu'ils ne soient pas prévenus du tout. Leurs familles, leurs avocats et la population sont généralement informés de l'exécution après qu'elle a eu lieu. Les exécutions secrètes bafouent les normes internationales relatives au recours à la peine de mort. Ce point et l'absence de garanties juridiques adéquates pour les condamnés à mort au Japon a été critiqué par de nombreux experts des Nations Unies, notamment la privation du droit des accusés à une aide juridique digne de ce nom et l'absence d'une procédure d'appel obligatoire dans les affaires où les accusés encourent la peine de mort. Il est par ailleurs établi que plusieurs prisonniers atteints de déficiences mentales et intellectuelles ont été exécutés ou se trouvent dans le quartier des condamnés à mort. Je ne voudrais pas quand même rester que sur des notes dures. On a appris très très récemment, donc je vois en date du 25 octobre, une décision annoncée par le président du Kenya. Le président du Kenya s'appelle Uhuru Kenyatta de commuer les peines de plus de 2700 condamnés à mort. Si le Kenya n'a procédé à aucune exécution depuis 1987, la population carcérale en attente de l'exécution de la peine capitale est l'une des plus importantes au monde. On parle donc de 2700 personnes là. Et donc, voilà, nous avons été, Amnesty entre autres, a tout mobilisé pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde, encourage le Kenya à poursuivre en ce sens et à rejoindre la communauté des pays qui ont définitivement aboli ce châtiment cruel et inhumain.
Bon, espérons qu'il va carrément abolir la peine de mort, parce que si effectivement des gens sont condamnés à la peine de mort, voilà, c'est ça qu'il faut enlever dans l'État, dans les lois de l'État, quoi.
Si je peux me permettre un petit commentaire par rapport aux États-Unis, puisqu'on en parlait en début d'émission, et par rapport à la peine de mort, bon, c'est vrai que les États-Unis continuent à exécuter. Tu parlais de deux initiatives de rejet de l'abolition de la peine de mort dans deux États, deux ou trois États. Le 8 novembre, en même temps que les élections présidentielles. Un petit commentaire quand même que je me permets, qui me repasse par l'esprit tout de suite, sur les élections américaines. Parce que ça, c'est quand même un problème aussi en termes de droits humains. Bon, vous savez qu'effectivement, Trump a été élu. Pourtant, le principe de la démocratie, c'est une personne, une voix, ce qui paraît une
c'est
évidence.
Très compliqué aux États-Unis. Voilà. Hein. Moi, je n'ai pas réussi à comprendre.
Si tu veux, je peux t'expliquer en deux mots.
Rapidement.
non, mais c'est juste en deux mots. Pourquoi, effectivement, Trump a été élu alors que Trump a eu 250 000 voix de moins
d'Américains, de base,
de moins,
on va dire. Voilà.
De moins ouais. que comment s'appelle-t-il, Hillary Clinton. Donc, en France, ce serait Hillary Clinton qui aurait été élue. Même avec une très courte majorité, mais une majorité quand même. Là-bas, effectivement, c'est l'inverse. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand les États-Unis se sont créés, fin 18e siècle, à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Et donc, comme ils avaient décidé de créer une démocratie dès le début, les anciennes colonies britanniques, et même si le territoire était moins vaste que maintenant, c'était déjà très grand, pour se retrouver avec des élections qui allaient durer très longtemps, puisque les gens se déplaçaient de la campagne, etc. Le temps de faire remonter les informations, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tout ça. Et il y avait une presse qui existait, mais qui était beaucoup moins rapide. Et donc, effectivement, ils avaient décidé de faire un vote indirect, c'est-à-dire de dire les gens vont voter par État. Ils vont élire, en fait, les représentants des candidats qui ont été retenus sous forme de grands électeurs. Et avec une règle qui va permettre d'éviter toute contestation, c'est que dans un État, le nombre de grands électeurs est défini par rapport à la population de l'État. Plus l'État est peuplé, plus il a de grands électeurs. Et à partir du moment où un candidat est arrivé en tête, il remporte l'ensemble des voix des grands électeurs, quelle que soit la couleur politique de ces grands électeurs. Ils sont tous obligés de voter pour celui qui est arrivé en tête. Donc, quand on obtient ce qu'on entendait aux informations, quelques États clés comme la Floride, etc., qui ont une population importante,
qui sont très peuplés,
qui ont beaucoup de grands électeurs, il suffit entre guillemets d'arriver en tête dans ces États-là pour rafler la mise entre guillemets des grands électeurs de ces États-là et de se retrouver élu. C'est ce qui est arrivé à Trump, bien qu'en nombre de voix, effectivement, il a 250 000 voix de moins. Donc potentiellement, ce n'est pas le président élu, mais ça fait la quatrième fois dans l'histoire des États-Unis. La dernière, c'était en 2000 avec aussi George Bush Jr. Et le candidat démocrate, je ne sais plus comment il s'appelait, Al Gore, merci. Il y avait le même problème, mais là, sur un nombre de voix qui était beaucoup plus restreint encore que là maintenant. Ça avait duré au moins un mois et demi de contestation. Et finalement, Al Gore avait fini, alors qu'il était arrivé en tête, avait fini par dire « bon, bah, ok, on accepte ». Et il y a un mouvement qui s'est créé après aux États-Unis pour dire « mais remettons en cause maintenant ce système qui n'a plus lieu d'être, qui s'expliquait à l'époque, mais qui ne s'explique plus maintenant ». Le problème qu'ont les Américains, c'est qu'il faut qu'ils remettent en cause la Constitution pour modifier ça. Et jusqu'à présent, aucun président n'a voulu s'attaquer à la Constitution.
Et je pense pas que ça va être Trump qui va s'attaquer.
Bien sûr que non. Mais il y a quand même un mouvement aux États-Unis, je voyais quelques trucs sur Facebook, entre autres, un mouvement aux États-Unis qui repart à l'heure actuelle pour dire arrêtons ce système de vote indirect qui n'a plus aucune raison maintenant et votons béaba de la démocratie normale. Un individu, une voix. Celui qui a le plus de voix, il gagne, c'est tout. Voilà. Et c'est une évidence.
Alors Patrice, tu voulais nous dire quelque chose de positif sur les habitants des États-Unis par rapport à la peine de mort.
Ah oui, il y a quand même l'évolution est nette, puisque si on...
C'était l'évolution de l'opinion, c'est ça ?
L'évolution...
Et Patrice qui reprend voilà, ses notes.
Les habitants des États-Unis, eux, ils sont...
Pas... Ah si, voilà, la page est bonne. Alors, dans le passé, il y a tout juste 20 ans, il y avait 80% de gens favorables à la peine de mort.
80%,
et 16
oui.
contre, et donc 4 qui ne savaient pas. Et maintenant, juste maintenant, 49% seulement, entre guillemets, des Américains sont favorables à la peine de mort, 42% y étant opposés.
Oui, donc le nombre de gens opposés va augmenter considérablement.
Effectivement,
50%.
Comme dit le communiqué de presse là, de Jean Stern, il y a vraiment du travail aux États-Unis pour les militants.
D'accord. Bon, donc, c'était la petite actualité sur la peine de mort faite par Patrice. Maintenant, il y a Françoise qui veut vous parler aussi d'un problème qui est arrivé à Amnesty.
Oui. Alors, moi, j'ai été quand même très émue quand j'ai lu une information d'Amnesty signalant que le mercredi 2 novembre au matin, les membres du personnel du bureau d'Amnesty de Moscou ont découvert avec surprise que le bureau avait été placé sous scellé. Les autorités municipales ont laissé un avis en interdisant l'entrée. Le court document affiché sur les locaux de l'organisation indiquait que le bâtiment est la propriété d'une ville de la Fédération de Russie et que personne n'est autorisé à entrer sans être accompagné d'un agent municipal. Les verrous et le système d'alarme ont été enlevés et le courant semble avoir été coupé. Amnesty International loue ses bureaux, situés dans le centre de Moscou, directement auprès de la municipalité. Donc, Amnesty France dit « Les bureaux d'Amnesty International Russie à Moscou ont été scellés par les autorités. Nous essayons de savoir pourquoi. » Les employés ont tenté de téléphoner aux autorités municipales en utilisant le numéro indiqué pour essayer de remédier à la situation, mais personne n'a répondu. Ils cherchent actuellement à obtenir une entrevue avec des représentants de la municipalité. Si les autorités persistent à refuser de résoudre ce problème, cela va ressembler de plus en plus à une obstruction délibérée à la contre de notre travail de défense des droits humains en Russie. Il est de plus en plus difficile de ne pas envisager cet incident dans le contexte d'une large répression de la société civile dans le pays. Cependant, Amnesty publie un communiqué du 4 novembre. Amnesty International a reçu un appel du responsable des services fonciers de la ville de Moscou dans la soirée du 3 novembre. Il a reconnu qu'une erreur pourrait avoir été commise et a invité l'organisation à le rencontrer lundi 7 novembre pour résoudre le problème. Amnesty International se réjouit de ce rendez-vous et espère qu'il permettra de régulariser la situation. Voilà, cependant, il faut savoir que les employés d'Amnesty International, même s'ils ne sont pas dans leur bureau, travaillent encore en ce moment. Hein. Voilà, et font des actions en ce moment à propos de leur pays.
Notre ami Poutine, quelle imagination, notre ami Poutine.
Je ne sais plus si dans ce que tu as dit, Françoise, il y avait le motif qui avait été invoqué, pourquoi les bureaux officiellement avaient été fermés. C'est que, soi-disant, l'Amnesty avait des retards de loyer, chose qui a été démentie, preuve de facture et de règlement, ouais. Comme quoi on était parfaitement à jour. Tout. Sur le règlement des loyers. Mais évidemment, c'est un argument de très mauvaise foi. C'est pas du tout ça. Effectivement, le but, c'est probablement de faire taire la voix des militants des droits de l'homme et d'Amnesty en Russie. Mais pour l'instant, ils ne sont pas arrivés à leur fin. On ne sait pas ce qu'a donné l'entrevue, mais on espère effectivement que ça va déboucher sur une solution.
On sera vigilant.
Amnesty ne lâche jamais.
Je vous propose une bonne nouvelle après une petite pause musicale. Non,
on y va.
Donc, un journaliste bangladais libéré, Shafiq Rehman, journaliste bangladais âgé de 81 ans qui avait été arrêté le 16 avril, s'est vu accorder une libération sous caution par la Cour suprême. Il est sorti de prison le 6 septembre après avoir passé plus de 4 mois en détention sans inculpation.
Regardez. visiter les alentours en passant avant de foncer tête baissée droit devant. Bienvenue citoyen, voici le monstre étatique qui fera ta nation, ton pays, sa politique. Mon pauvre esprit de rêve te voilà catapulté au milieu des sondages et du journal télévisé. Overdose de crapules noyées dans leur ramage.
Mais où se situer dans tout ce paysage?
Mais quand l'empire du pire au cœur de ta cité se mettra à sécher l'âme humaine au fond de son grenier, je sais que tu prendras tes convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. Les extrêmes, c'est toi, nana.
Quand tu ne vas te faire.
Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Bienvenue, novice au marché électoral. A le temps d'aller s'inscrire.
Oublier.
Trop de travail.
Ou qui s'est érigé un de ses principes moraux.
De sentir citoyen et de refuser d'aller sur la bataille.
Ils doivent se réjouir, envahissant le nerf de la guerre. Récoltant les voix.
De la bourgeoise à la fermière.
Tu n'imagines pas la puissance que tu es. L'histoire c'est toi qui l'a fait. Alors tu descends dans la rue combattre la peste brune. Toi qui n'as jamais jamais pris le chemin vers les urnes. Il est temps de brandir ses convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen.
Mais les extrêmes,
c'est toi, nana.
Tu quoi, hein? Quand tu ne votes pas.
Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Une pierre du barrage, tu sais au moins que tu veux être une pierre du barrage. Alors tu descends dans la rue combattre la peste brune. Toi qui n'as jamais pris le chemin vers les urnes, il est temps de bondir ses convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. L'autre, c'est toi, nana.
Quand tu ne votes pas,
mais les extrêmes, c'est toi, nana. À gauche, à droite, rien.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux pour son émission bimensuelle. Et donc on vient d'entendre, c'est un vieux disque, hein, mais bon, je l'ai entendu aujourd'hui, je trouvais que le sujet sur le fait d'aller voter était important par rapport à tout ce qui se passe et aux élections américaines dont on a parlé, et qui s'appelle un disque de trio, qui s'appelle Les Extrêmes. Voilà. Les Extrêmes, c'est toi quand tu ne votes pas, c'est ce que dit le refrain. Et oui, il faut voter. Maintenant, il y a Edith qui va vous parler de droits humains et d'environnement. Tiens donc, on est devenu une association écologique.
Ah ouais, carrément, tu ne savais pas. Eh bien, les droits humains, c'est aussi, ça se décline aussi au niveau de l'écologie. Et là, le thème d'Amnesty, donc il y a tout un superbe article dans la dernière chronique, qui, comme Didier nous le dirait, est le journal mensuel d'Amnesty. Vous pouvez vous abonner facilement, blablabla. Vous allez voir sur Internet.
Je ne le répéterai pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure.
Moi non plus. Donc, le titre, c'est « Mourir pour l'environnement ». Et effectivement, les statistiques données par l'ONG Global Witness, sur cette année, 185 morts. Le chiffre donne le vertige. C'est le nombre de personnes tuées en 2015 au nom de la défense de nos ressources naturelles. Alors les pays où ça existe le plus, c'est le Brésil, 50 personnes, les Philippines, 33, la Colombie, 26. La plupart des victimes sont des paysans pauvres ou des représentants des peuples indigènes qui défendent leurs terres ancestrales, qui sont les plus touchés. Les représentants des terres indigènes représentent 4% des victimes recensées. Dans 16 cas, l'ONG britannique a constaté l'implication de groupes paramilitaires. Dans 13, l'implication des forces armées. Dans 11, celle de la police et des gardes de sécurité privés. Et oui, on peut mourir pour défendre la terre. Et cet article répond aussi à une avancée sur la possibilité de jugement. Donc, il y a une grande avancée sur la défense de l'environnement. La Cour pénale internationale, vous voyez ce que c'est ? La Cour. Ah, et Ronan, il avait choisi le même sujet que moi pour vous dire. Ouais. Eh ben ouais, tu pourras parler après, Ronan. Donc la Cour pénale internationale de La Haye a élargi son champ d'action aux crimes. Alors, impliquant ou entraînant des ravages écologiques, l'exploitation illicite des ressources naturelles ou l'expropriation illicite des terrains. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté par rapport à la CPI qui, logiquement, est là pour juger les crimes de guerre. Donc la procureure de la CPI, Fatou Bensoussa, fait un lien pour la première fois entre les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'environnement dans un document qui a été publié en septembre dernier. N'est pas passé inaperçu chez les défenseurs de l'environnement et Amnesty a accueilli cette nouvelle avec une grande satisfaction. Car notre organisation, quand elle défend les droits économiques et sociaux, forcément on va toucher à l'environnement. Hein, moi je me rappelle d'un dossier sur la Russie au moment des Jeux Olympiques.
Tout à fait.
Où il y avait un défenseur, un écologiste qui avait été emprisonné pour lesquels on avait écrit. Et il y a énormément de ressources naturelles dans des pays qui sont...
Au Niger.
Voilà, le détroit du Niger. Et là, ce sont des ressources naturelles qui sont la proie, on va dire, de gros capitaux ou de multinationales, très souvent.
Ah bon ?
Oui, carrément. Ah. Donc notre organisation
j'ignorais ce point.
a dénoncé les expulsions de terrain dues à des activités d'entreprise, par exemple. Et désormais, des dirigeants ou des employés d'entreprise, ainsi que des membres des conseils d'administration, peuvent être poursuivis pour leur impact qu'ils ont commis contre l'environnement, même s'ils ne sont que complices. Mais il faudra cependant que les crimes aient été perpétrés sur le territoire d'un État membre de la CPI ou par leurs ressortissants. Aujourd'hui, la CPI compte 124 États parties. Alors ce qu'il faudra aussi, et là on va être attentif, c'est que les juridictions nationales de ces pays augmentent leur texte de loi pour enquêter et poursuivre ces crimes. Et espérons surtout que ça aura un effet dissuasif sur les entreprises pour qu'elles se comportent de manière plus responsable. Alors cet article a aussi trois exemples. Alors c'est très complet. Bon, on ne va pas tout vous raconter, juste vous donner rapidement quelques déclinaisons. Par exemple, en Tunisie, il y a Agabès, il y a une usine qui transforme le phosphate en engrais. Et cette usine amène des dépôts dans la mer, donc plus de pêche, pollution, dans l'air. Donc la pollution est visible parce que c'est en plus une poussière qui arrive un peu partout et qui en plus empoisonne les gens au niveau de la respiration. Donc il y a des maladies. Et en plus, les puits acides grillent les cultures. Donc voilà, les gens de Gadès sont actuellement, on va dire, un peu démunis par rapport à cette entreprise qui est une entreprise tunisienne. Hein, c'est pas là une grosse multinationale.
Non, mais c'est un gros employeur, donc aucun des responsables politiques ne veut l'attaquer de front. Je n'ai plus les chiffres là voilà. Sous les yeux, mais ça représente plusieurs milliers d'emplois en Tunisie, cette entreprise qui s'appelle la GCT, voilà. Qui exploite ces phosphates, effectivement, pour l'agriculture.
Alors, le régime de Ben Ali, il était impossible d'évoquer la pollution de Gabès. Alors, depuis la Révolution, il y a des comités citoyens qui essayent d'évoquer cette pollution, mais pour l'instant, il n'y a pas de, ils n'arrivent pas à interpeller l'État. Donc là, ça sera aussi des domaines pour les aider. Donc, ils vont essayer d'avoir déposé un dossier auprès de l'instance Vérité et Dignité, qui a été créée en décembre 2013 pour traiter des préjudices commis sous les régimes de Bourguela et de Ben Ali. Mais il n'y a pas encore de réponse. Donc, voilà.
Donc, on espère que ça pourra avancer pour eux, effectivement. Et l'autre exemple qui est pris, je peux en dire un petit mot, parce que moi aussi, j'ai lu le dossier.
On travaille à deux.
Donc ça parle des Philippines. Je vous dirai un petit mot après d'ailleurs sur le président philippin. Ça ne sera pas tiré d'Amnesty, mais c'est tiré d'un reportage que j'ai vu il y a quelques semaines à la télévision et qui m'a fait absolument froid dans le dos.
Tu nous en as parlé, il faut absolument. Oui,
voilà.
Faut
donc je vais vous en dire un mot après, mais c'est par rapport au pays là, c'est pas par rapport à l'environnement. Donc aux Philippines, il y a une île qui regorge de matières premières, de minerais, de fer, de cuivre, d'or, de nickel, etc. etc.
Chromite.
Et de chromite, je ne connaissais pas.
Un minerai rare.
Ce n'est pas une maladie. Hein, mais
non, bon, chromite, ce n'est pas une insulte non plus.
Voilà. Donc, bon, évidemment, énormément d'envieux. Et il y a des gens qui espèrent en tirer d'énormes profits. Donc, bien évidemment, l'exploitation de ces mines donne lieu à plein d'exactions en termes de protection de l'environnement. C'est sur l'île de
Mindanao.
Mindanao,
voilà.
Petite île.
Et donc, C'est ce que dit le dossier. Et donc, et il cite un petit exemple d'une personne qui s'appelle Chito Tidares, qui est un militant, qui pourrait se dire que la région dont il est originaire, dans cette région-là, a été bénie pour posséder autant de ressources naturelles. Mais cet ancien séminariste devenu fermier et défenseur de l'environnement ne cache pas son inquiétude depuis que les compagnies minières, encouragées par le gouvernement philippin, ont redoublé d'activité il y a 10 ans. Et le responsable d'Amnesty Philippines, puisqu'il y a une section d'Amnesty aux Philippines, dit un peu plus loin, les compagnies minières font des offres difficilement refusables et certains responsables de communautés indigènes autorisent l'entrée de grandes entreprises sur leur territoire sans mesurer les conséquences pour l'environnement ni pour eux-mêmes. Certains ont bien tenté de proposer un autre modèle de développement. Pour la première fois à l'occasion des élections qui se sont tenues en mai dernier, les militants anti-mines anti-mines, s'il s'agit des mines d'exploitation, là, des minerais, c'est pas des mines, c'est pas des bombes, ont constitué une liste électorale. Chito Tridares, dont on parlait, a fait campagne pour le poste de maire adjoint de la ville de Cantilan, aux côtés de Christelle Yaparaguir. Nous proposions de développer l'écotourisme comme une alternative à l'activité minière, se souvient la directrice du programme environnement. Les gens trouvaient notre programme intéressant. Mais la veille du vote, notre principal adversaire, le maire sortant, lié aux compagnies minières, a versé de l'argent aux électeurs et tout le monde a oublié nos propositions. Chaque voix a été achetée environ 1000 euros. Alors on parlait tout à l'heure dans la démocratie d'une notion d'un individu, une voix. Il est bien évident que là aussi, quand on paye les gens 1000 euros et quand on connaît les problèmes de chômage et de misère qu'il y a aux Philippines, quand on paye les gens 1000 euros pour avoir les voix, là aussi, évidemment, c'est un déni de démocratie. Il n'y a pas d'autre mot.
Et alors là, il y a aussi, moi j'avais, on regarde un peu sur cet article-là, j'avais noté une phrase d'Amnesty, et là c'est pareil quand on lit ça. Donc aux Philippines, c'est un pays où tout s'achète, donc Didier vient de le dire au niveau des lois. Il est courant que des juges partent opportunément en vacances au moment du procès.
Oui.
C'est pas mal ça aussi.
Ben oui.
On a un procès.
Faut bien qu'ils se reposent.
Qu'ils
se reposent. Et donc plus loin, il est dit, toujours par les mêmes dans l'article, on doit faire face à des géants qui ont beaucoup d'argent. Il faut vraiment être une personne à principe pour que rien ne puisse vous acheter. Donc, bon, effectivement, ça explique, bon là, on ne va pas tout raconter l'article, mais ça explique effectivement beaucoup de choses par rapport à ça, et qui montre bien que la lutte pour défendre l'environnement et pour défendre une exploitation, dirons-nous, au moins judicieuse de ces ressources naturelles, et qui ne mette pas en péril l'environnement local, se fasse de façon réaliste. On en est encore loin jusqu'à présent, effectivement. L'article explique effectivement qu'il y a eu des exactions absolument affreuses, je vais quand même vous en dire un mot, qui ont été commis contre une communauté pour des raisons là aussi qui ne voulaient pas se laisser faire pour céder leurs terres pour l'exploitation. La communauté s'appelle les Lumad. Et le 1er septembre 2015, donc c'est très récent, les paramilitaires sont entrés à l'aube dans la communauté. Les habitants terrorisés ont été rassemblés et devant eux, un datu de la communauté, je suppose que c'est un chef, le président et Dani. Dionel Campos, le président de l'organisation Mapasu, qui lutte pour la préservation des terres ancestrales, ont été exécutés, pendant que le directeur du système éducatif indigène alternatif était torturé, puis égorgé un peu plus loin dans une salle de l'école. Donc défendre l'environnement, comme disait Edith tout à l'heure, effectivement, c'est non seulement défendre un cadre de vie qui permet aux gens de vivre à peu près normalement, mais c'est aussi, dans ces pays-là, risquer sa vie de façon absolument... Et ça, c'est pour ça qu'Amnesty intervient. Je disais tout à l'heure avec Humoristique, on est devenu association écologique, même si de toute façon, défendre les droits humains et défendre les droits de la planète, on parle de la même chose. Mais bien évidemment que nous, on intervient sur les exactions, comme on vient de vous citer, de gens qui laissent leur vie simplement pour avoir défendu l'environnement dont ils font partie localement. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important. On continuera, c'est sûr, à lutter par rapport à ça. Comme disait Edith, le fait que la CPI, maintenant, puisse s'auto-saisir de ces crimes pour juger les responsables, c'est une bonne chose. Maintenant, la CPI, on sait qu'elle a des problèmes de fonctionnement, enfin, etc. Alors, il y a des États qui veulent en partir. Il y a l'Afrique du Sud, le Burundi.
Il y a trois États africains, oui.
Oui, le Burundi, la Gambie et le dernier qui a menacé aussi de partir, qui veulent en partir parce qu'ils estiment que c'est dirigé trop par rapport à l'Afrique et pas assez par rapport au reste du monde, enfin, etc. Ça, c'est le querelles intestines. Mais toujours est-il que cet outil, même s'il fonctionne avec des défauts, mais bien évidemment, il a au moins le mérite d'exister et d'essayer de mettre un peu d'ordre dans toutes ces exactions. Donc, effectivement, on ne peut que d'aller dans, que se réjouir du fait que la CPI prenne ce genre de crime en considération.
Il faut continuer à ce que les législations de chaque pays aient aussi un versant et au niveau de la défense des biens. Des biens communs, c'est-à-dire l'eau, les forêts. Et tout, voilà. Donc bien là, sûr. Il faut continuer. Et parce que ce sont des gens qui vraiment. Sont des gens qui ne sont pas forcément en association et qui viennent du monde paysan et qui veulent absolument défendre leur territoire. Et il faut les aider.
Il ne faut pas oublier qu'en ce moment a lieu la COP22, là, en ce moment à Marrakech. Oui. Amnesty y assiste en tant qu'observateur aussi. Et là, c'est par rapport au terme de mise en cause des droits humains par rapport au problème écologique. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure de M. Trump. C'est difficile de pas penser à lui souvent en ce moment, dans ses grandes déclarations. Alors est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Parce qu'entre ce qu'il a dit et ce qu'il va faire, il y aura forcément beaucoup de différences. On espère dans le bon sens, ou dans un moins mauvais sens, dirons-nous. Mais il avait promis effectivement d'enterrer l'accord de Paris de l'année dernière par rapport à l'environnement. Bon, voilà, c'est, quand on entend ce genre de déclaration, enfin moi quand j'ai lu ça, je trouve ça tellement crétin que je veux dire, on trouve même plus de mots pour répondre à ça. Il fait partie de la planète, lui aussi c'est un être humain qui vit sur la planète. S'il considère que maintenir une planète un minimum vivable pour lui et les générations à venir, s'il considère que c'est un superflu, c'est vraiment d'un crétinisme sans nom.
Voilà, c'est dit. Bon, ben moi je vais vous parler d'un autre continent, l'Afrique, où les violences et les atteintes à l'intégrité physique sont une coutume, enfin, un procédé, comment on peut dire ?
Un procédé, oui.
Oui, parce que coutume, c'est non, un procédé. Coutume, non. Assez courant, hélas, encore maintenant. Cela fait 2 semaines que Taladi Kombari, 14 ans, est porté disparu. Pourtant, dans son village de Poutianmanga, à 10 km de Fadangouma, capitale de la région est du Burkina Faso, son absence ne suscite aucun mystère. Tout le monde sait qu'elle est la victime d'un rapt coutumier. Cette pratique consiste à enlever une jeune fille vierge à sa famille et la mettre enceinte pour forcer un mariage. Explique Kaminana Singh Beo, directeur provincial de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Fadangouma. C'est un acte barbare aux conséquences terribles sur les plans psychologiques, physiques et sociaux. Donc les filles scolarisées sont les premières victimes des rapts. Retenues prisonnières des semaines, des mois, voire des années, les victimes sont violées par leurs ravisseurs. Quand ils se décident enfin à rendre la fille, les parents ont souvent honte de la reprendre. Une fille enlevée qui a perdu sa virginité ne trouvera pas d'époux. Alors, pour éviter le déshonneur de la famille, ils acceptent le mariage avec le ravisseur. La fille devient une mère et quitte l'école. Parfois, on ne la revoit jamais. Au Burkina, le rapt est une pratique ancienne qui touche surtout les zones rurales. Dans la province de Gourma, 16 cas de rapt ont été répertoriés en 2014-2015. Cette tradition est encore très présente chez les ethnies Mossi et Gourmanché dans l'est du pays, mais on la retrouve aussi dans d'autres régions et peuples. Elle est souvent le fait de jeunes hommes de plus de 20 ans, peu instruits, qui voient d'un mauvais œil l'éducation des filles. Ils ont peur qu'elles prennent leur indépendance, car dans le milieu rural, école rythme avec émancipation. Laisser leurs futures épouses à l'école signifie ne plus pouvoir les dominer. C'est après l'école que Taladi a été kidnappé par le cousin de son père, âgé d'une 50aine d'années, Ahadi Kombari. Il lui a tendu une embuscade avec un complice de la famille aussi. La nuit tombée, elle est sortie de la maison pour se soulager. Ils lui sont tombés dessus. Ahadi l'a surgé à l'arrière de sa moto et a démarré à travers champs. Le père de Taladi, labouré, il n'a pu rien faire. Rongé de remords, il se tient aujourd'hui à l'ombre d'un arbre. Kombari a la 60aine, éthique, peau plus fireuse et chemise trouée. Son long corps tangue un peu, mais garde une dignité raide. C'est la deuxième fille qu'on lui enlève, mais la première fois que l'acte est perpétré par des membres de sa famille. Quand on te voit comme un moins que rien, on se permet de te faire des choses horribles. C'est écœurant, lâche-t-il. Le regard furieux en direction des deux frères du ravisseur, pourtant venus témoigner en sa faveur. Les ravisseurs visent souvent les familles les plus pauvres, celles qui n'auront ni les moyens financiers de les poursuivre en justice, ni les forces vives pour une opposition physique. Et sur les 6 enfants de Kouakdia, Le seul garçon qui aurait pu défendre sa sœur est un adolescent frêle et farouche qui se cache derrière un arbre. Il arrive souvent que les ravisseurs soient des proches de la victime, des membres de la communauté, d'un village voisin ou comme dans ce cas la famille élargie. Diacibo et Dapoudi Kombari, 32 et 47 ans, sont les deux petits frères du ravisseur. Ils sont venus s'excuser de l'attitude de leur aîné, le regard penaud. Ce n'est pas le premier forcé, Daha dit. Il y a quelques années, il avait déjà enlevé une fille de Fadakourma. Ils avaient réussi à le convaincre de la rendre rapidement, mais cette fois-ci, il semble plus décidé. Ils sont allés le voir dans la case où il s'était retranché. Une bagarre a éclaté. Hadi a menacé ses frères de mort s'ils essayaient de lui enlever cette jeune fille. « Nous ne voulons pas prendre le risque, disait-il. Nous aussi, nous avons des épouses et des enfants à protéger. » Hadi a changé de planque. Personne ne sait où il a amené Taladi. Deux semaines qu'il a déguerpi de sa maison, un cube en briques situé à 50 mètres de l'école, presque dans le domaine scolaire. Là réside la mère du ravisseur et ses deux filles. Son épouse est à l'hôpital enceinte, elle s'occupe aussi de leur fils malade. Les enquêteurs ont appris qu'elle était au courant que son mari tournait autour de Taladi. Il l'avait déjà amené à la maison, mais elle ne pouvait rien dire de peur que ce soit pris pour de la jalousie par les voisins. Dans un milieu polygame, ne pas vouloir de co-épouse, même très jeune, serait mal vu. Voilà. Alors, il existe dans ce pays donc des cas semblables. Et, bon, bien que l'article 27 de la Convention internationale de l'enfant dise « Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou la détention illégale. » Et l'article 19 « L'État doit protéger l'enfant contre toute forme de mauvais traitement perpétré par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié. » Il établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements et pour traiter les victimes.
Donc,
ouais, il y a encore du travail à faire. Hein, voilà, les femmes défendent des filles.
Et on rappelle que Amnesty a également une section au Burkina Faso, donc ce sont aussi des gens à soutenir pour qu'ils puissent agir de façon plus efficace encore par rapport à tout ce qui se passe là-bas. C'est eux les mieux placés pour pouvoir faire bouger les choses, mais c'est souvent compliqué et souvent très long. Trop long pour les gens qui sont malheureusement victimes. On va peut-être faire une deuxième pause musicale et on se terminera par les quelques informations
des
locales.
Des brèves locales.
Et puis, tu as peut-être encore une autre bonne nouvelle, Renan, à dire. Oui, il avait d'autres bonnes nouvelles.
Allez, musique,
avant.
Solide mais beau, tu t'y accroches comme un guide qui te garde la tête hors de l'eau. Doucement t'écoutes les discours, ceux qui font tourner le monde, ceux qui déglinguent tout sans retour, sans jamais trouver ça immonde. Une paire de notre cerveau, chaîne autour du cœur, esclaves aux mains des pires salauds, partout des pauvres mômes vivent l'horreur. Sale temps pour les idées cool, les connards volent trop bas. Y'a ces bonnes religions qui se défoulent sur l'éthique du bien et du mal. Singes rêvent de gloire, ils finissent dans des cages. Au bon soin du doc média qui les dissèque les fous hors face. Mais où sont passés mes bons vieux guides? Où sont passés mes repères? J'ai cherche encore au bout de la nuit dans la ronde des vers éphémères. Attribut du désespoir, splanque dans les collines. Et j'irai de moins en moins vous voir pour tous et avec vous en ville. Pour tous et avec vous en ville. Essayez d'y croire.
De retour pour la dernière séquence de l'émission Amnesty International Évreux pour donc parler des droits humains. On vient d'entendre Paul Persson, ça, on aime bien nous rendre.
Ouais, il y en a qui aiment bien ici, on
mais
sait
bon,
pas qui.
Mais il n'y a pas beaucoup d'émissions de radio qui passent du Paul Persson. Déjà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas passé
Paul
oui,
Persson. Ah donc... oui, quelques mois quand même. Quelques mois.
Le morceau s'appelle Essayer d'y croire. Ça parle aussi de respecter des grandes idées. J'ai trouvé que c'était de circonstance. Donc voilà.
Alors nos brèves à nous.
Nos brèves à nous, c'est-à-dire notre actualité effectivement, mais
ah,
il y a
la
Renan,
bonne nouvelle, Renan.
Mais il y a Renan qui avait
à
quelque
toi.
Chose à vous dire.
Oui, une bonne nouvelle cette fois-ci, c'est à Oman, la libération d'un prisonnier d'opinion. Le prisonnier d'opinion omanais Saïd Jadad a été libéré le 26 août, après avoir purgé 9 des 12 mois de peine d'emprisonnement, laquelle il a été condamné en vertu de la loi relative à la cybercriminalité d'Oman, pour avoir écrit un billet de blog en octobre 2014.
Un pauvre gars qui écrivait un petit blog.
Il fait un petit blog et tout. Et hop.
Et donc il a retrouvé la liberté, c'est ça l'essentiel.
Tout à fait, mais au bout, quand même, quand tu comptes, ça fait pratiquement 2 ans de prison. Quoi.
Quand ben même, oui. Ouais. Voilà, ben faut oui. faire attention à ce oui. qu'on écrit. Oman, c'est où, Oman? Tu nous le situes où?
C'est dans les...
Ah, un blanc.
Les Émirats arabes. C'est les Émirats arabes.
Mais oui, c'est des petits pays où
quand
c'est tout petit.
Tana,
pays.
Oui. Voilà, quand on parlait tout à l'heure de liberté de la presse, hein, ça en fait partie, hein, les
tout
blogs sur
fait.
Internet, la liberté de la presse, voilà, c'est toujours les mêmes sujets. Hein. Notre actualité locale, alors on va vous passer une information qui vient pas de nous, mais qui vient d'amis proches, qui vient d'Éducation Sans Frontières, pour une pétition qui, je pense, est toujours
réseau,
en ligne.
Réseau Éducation Sans Frontières.
Pour une pétition qui est toujours en ligne, qui est destinée à une actualité locale. Clarisse n'est pas là ce soir.
Clarisse n'est pas là, donc on fait le relais.
Pour vous parler d'actualité locale. Mais donc, effectivement, on vous donne cette info-là. Il faut signer une pétition. En soutien à, comment il s'appelle,
un jeune lycéen
qui s'appelle Kelman et qui vient de République démocratique du Congo. Non, il vient du Congo-Brazzaville, pardon, c'est juste à côté. Et donc, qui a séjourné ici et qui est menacé d'expulsion pour retourner vers son pays. Il est frappé, de, comme disait Edith, de OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Voilà. Et donc ce jeune, en quelques mots sur lui, il est originaire donc du Congo-Brazzaville et il a réalisé la volonté de sa mère qui avait décédé et qui souhaitait le voir faire ses études en France. Il est arrivé dans notre pays le 17 juillet 2014. Au décès de sa maman, il s'était retrouvé orphelin, livré à la rue, on connaît ça, où il a vécu pendant 2 années avant d'être aidé par un ancien ami de sa mère. Notamment à partir vers le, entre guillemets, pays des droits de l'homme, c'est-à-dire la France, mais ça, la France, pays des droits de l'homme, moi, ça me fait toujours sourire. Comme mineur isolé et étranger et conformément à la loi, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, etc. etc. Il a été scolarisé au lycée...
De brillantes études.
Voilà. Il a été scolarisé au lycée d'Evreux, là, le lycée, comment il s'appelle ?
Aristide Briand,
merci, j'avais cherché le nom. Et donc, maintenant, il est menacé d'expulsion, parce que on estime qu'il n'a plus... Enfin, les autorités françaises estiment qu'ils n'ont plus rien à faire ici, comme je suppose qu'il est devenu majeur dans l'intervalle.
Mais il n'est pas encore majeur, mais on soupçonne, on met en cause son âge en disant est-ce que vraiment il a 17 ans, voilà, il y a des radios du poignet qui peuvent être faites, mais on sait qu'au niveau médical, ce n'est pas fiable.
Donc ça arrangerait certaines personnes qu'il ait plus de 17 ans. Quoi.
Voilà, de toute manière...
Donc, Donc, Réseau d'éducation sans frontières précise que ça aurait son expulsion a évidemment des conséquences désastreuses sur ses conditions de vie et d'études, et qu'il verrait son avenir menacé et qu'il réactiverait les traumatismes qu'il a vécu précédemment. Donc, vous allez sur le site de Réseau d'éducation sans frontières, en un seul mot. Non, le site s'appelle en fait Éducation sans frontières, il n'y a pas réseau. Éducation sans frontières, vous tapez RESF sur Google,
vous aurez bien. Évreux, pétition, voilà. Vous allez trouver.
Vous allez dans l'Eure, département de l'Eure, c'est classé par département, et vous allez trouver la pétition tout de suite. Donc surtout, il faut la signer de façon très urgente, parce que ça menace...
La faire passer.
La menace, voilà, à faire passer l'information, parce que la menace d'expulsion est au-dessus de sa tête. Donc voilà, ce jeune garçon, ce jeune Congolais, doit rester en France pour pouvoir vivre normalement. Autre actualité. Alors, il y a une manifestation, c'était vendredi dernier. Patrice y était. Patrice.
Il y avait du monde.
Patrice ne veut pas raconter.
C'était une manifestation intersyndicale. Ouais. On va passer les détails, on va aller à l'essentiel. Une manifestation intersyndicale, donc toutes les organisations syndicales. Lié en fait au relogement des sièges des syndicats du département, qui donc sont toujours actuellement dans la Bourse du Travail.
Oui, mais il y a des immeubles qui se construisent là.
Rue de Panette. Donc normalement, les autorités nous ont demandé à ce que les OS, les organisations syndicales, partent au mois de décembre de manière à mener à bien un projet immobilier. Bon, nous, on prend pas parti sur les détails.
Mais ce qui est compliqué, c'est que là, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de proposition tout de suite.
On sait que les propositions...
Voilà, c'est pour ça qu'ils sont inquiets.
Donc, il y a eu cette manifestation qui a quand même eu un écho régional, national. Et donc, en fait, grâce à la médiation du préfet de l'Eure, il y a 6 mois de délai de grâce. Donc, il y a 6 mois pour négocier, pour trouver un...
Des locaux,
Des
locaux décents pour héberger les syndicats.
De l'agglo d'Évreux. Espérons que les 6 mois seront mis à bon profit et que la négociation aura une issue positive.
Parce que c'est les syndicats, c'est comme la presse, c'est partout des lieux d'expression.
Ben là aussi, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de se syndiquer, le droit de manifester ses droits en tant que travailleur au sein des syndicats. C'est reconnu, et c'est une liberté.
Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Il l'avait noté. Bravo Patrice, moi je n'avais pas le numéro en tête. Donc que les syndicats d'Évreux soient relogés dans de bonnes conditions, c'est tout ce qu'on demande à l'agglomération d'Évreux. Nous, on est présents jeudi 17 novembre,
ce jeudi-là,
c'est-à-dire après-demain. On est présents avec la scène nationale autour d'une pièce qui s'appelle Nobody et qui parle de la dignité dans le travail. Nous, on aura un stand orienté sur la dignité humaine. C'est au cadran, c'est à 20h. Et donc, si vous avez encore votre soirée disponible, il y a toujours des places. N'hésitez pas à nous rejoindre au cadran à 20h pour cette pièce Nobody.
Même avant 20h.
Il y aura une table de presse.
On fait avant et après, effectivement. Et on va interviewer le metteur en scène aussi à l'issue du spectacle. Mais donc, on collabore avec la scène nationale pour cette soirée le 17 novembre à 20h au cadran. Notre prochain rendez-vous aussi, c'est le dimanche 4 novembre.
Le gros rendez-vous.
Merci Françoise de corriger le mois. Le dimanche 4 décembre prochain, à la Halle des Expositions, notre exposition est foire aux livres annuels. Donc de 10h à 19h à la Halle des Expositions.
Des pétitions.
Vous verrez très bientôt plein d'affiches dans Évreux.
Des panneaux, l'information et nous rencontrer.
Et nous rencontrer. Donc dimanche 4 décembre, 10h, 19h à la Halle des Expositions d'Évreux. C'est à côté de Cora. C'est une
on vous le rappellera.
Voilà. Et notre prochaine émission de radio qui aura lieu le mardi 29, je vois Renaud qui réfléchit à la date, c'est le mardi 29, c'est dans 15 jours, en direct sur l'antenne de Principe Actif, 19h-20h. On vous rappelle que tous les podcasts depuis de nombreuses années sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à nous réécouter, principeactif.net. On vous recommande d'aller très souvent sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Il y a plein de pétitions à signer. Il y a plein d'informations en complément de ce qu'on vous a raconté ce soir. Il y a plein de choses tout à fait intéressantes. Il y a aussi plein d'autres sites d'Amnesty. Vous avez toute une liste de sites nationaux ou internationaux. Et il y a Renan qui me coupe la parole avec le générique.
Bonsoir.
Bonne soirée. Les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Sure.